Hola, buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Som una ida a la història, un avui que ve i se'n va. Som presència, som memòria, som el poble català.
Bonjour à tous. Plus déterminés que jamais, les indépendantistes catalans en Espagne font tout pour que se tienne le référendum du 1er octobre sur l'autodétermination de leur région. Référendum considéré comme illégal par Madrid car contraire aux règles de la Constitution. Un référendum qui enflamme les Catalans mais qui les divise aussi. À Barcelone, ville d'1 600 000 habitants au cœur de la Catalogne, Diane Cambon a pu le constater en se rendant dans un immeuble du quartier de Gràcia, non loin du célèbre Parque Güell.
Paco Pujol habite au deuxième étage de cette belle immeuble art déco de la rue Gromis, si caractéristique de l'architecture de Barcelone. Avant de regagner son appartement, cet éditeur de 52 ans aime s'arrêter au bar en bas de chez lui pour partager un verre avec ses voisins. Ce soir, il y a Mariu, la voisine du premier, accompagnée de Lola et de ses deux chiens. Si en général les conversations roulent sur des sujets légers, depuis quelques jours la discussion tourne autour d'un seul et unique thème, le référendum sur l'indépendance. Paco est un Catalan pur souche, mais il veut rester dans le giron espagnol.
La Catalogne a plus de compétences que toutes les régions d'Allemagne, de France ou de n'importe quel pays. Que veut-on de plus ? Il est vrai qu'il y a des problèmes d'infrastructure, la construction attendue d'un train longeant le littoral, les autoroutes obsolètes. Mais rien ne justifie un désir d'indépendance. Rien du tout. C'est autre chose. Ils ont réécrit l'histoire, revu les programmes scolaires. C'est le discours que certaines personnes tiennent ici, dans ce café. Et c'est un pur mensonge.
Mariu, la voisine du premier étage, a du mal à cacher son indignation. Pour cette séparatiste de la première heure, Madrid spolie la Catalogne depuis des siècles. Le 1er octobre, si elle peut aller voter, elle ira sans aucune hésitation.
Ils nous ont volé nos terres et aujourd'hui on veut les récupérer. Alors oui, je vais aller voter dès 8h du matin et je voterai oui. Que ce soit dans un endroit ou un autre, il faudra aller voter.
Si son point de vue tranche avec celui des habitués du café, cela n'empêche pas une bonne convivialité entre les habitants de son quartier, comme elle aime à le souligner.
Regarde mon balcon, c'est celui de couleur verte. J'y ai accroché mon drapeau catalan, pas celui des radicaux de gauche, celui des indépendantistes. Dans cet immeuble, on est quelques-uns à être pro-indépendantistes et les autres voisins que je connais depuis 33 ans, j'imagine, ne le sont pas. Et pourtant, ce sont des Catalans, mais ils sont contre l'indépendance. On ne s'est jamais affronté sur la question. En Catalogne, nous ne sommes pas un peuple de conflit. Nous voulons la paix et voter démocratiquement.
D'un tempérament plus modéré, le voisin de Mariu, Jordi, est aussi un indépendantiste. Pour cet ingénieur de 37 ans, il n'y a plus de retour en arrière possible. Que ce soit cette année ou dans 10 ans, la Catalogne parviendra un jour à se séparer de l'Espagne.
La seule chose qui peut freiner ce processus, c'est qu'il y ait un référendum et que les indépendantistes perdent. Là, oui, ce serait un sacré coup d'arrêt. Mais tant que ce moment n'est pas arrivé, les gens ne vont pas abandonner car ils sentent profondément qu'il est légitime pour eux d'aller voter.
Au troisième étage vit Sarah, la quarantaine, architecte, qui jongle entre son travail et sa vie de famille. Dans son vaste appartement, cette mère d'une petite fille de 2 ans aimerait aussi pouvoir voter, mais pas de cette façon-là. Comme beaucoup de Catalans, elle dénonce la manière dont le gouvernement régional de Carles Puigdemont a organisé le référendum.
C'est comme un coup d'État. Ils nous ont imposé le référendum et l'opposition n'a pas eu l'occasion de se défendre ni de débattre. Il n'y a eu aucune campagne pour le non à l'indépendance. Il n'y a pas de débat, pas d'argument exprimé en faveur du non. Ce n'est pas juste, car une partie de la population n'est pas représentée ni dans les débats ni à la télé. Ce ne sont pas des façons honnêtes de procéder. Pour moi, il faut que ce soit légitime, qu'il y ait des listes de vote, des bureaux de vote, comme toujours, et qu'il y ait des garanties pour les deux parties.
Comme une grande majorité des Catalans, Sarah est indécise sur son vote. Elle refuse de légitimer un scrutin déclaré illégal par la Cour constitutionnelle espagnole.
Je ne sais pas ce que je vais faire, car pour les partisans du non, la consigne qui circule sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas aller voter pour ne pas cautionner ce référendum. Mais en même temps, si je m'abstiens, le oui va l'emporter, car en toute logique, seuls les partisans de l'indépendance iront voter. On se retrouve dans une situation absurde, étrange. Si on doit aller voter, il faudrait que cela se fasse dans de bonnes conditions.
Selon un dernier sondage de l'Institut Métroscopie, 61% des Catalans considèrent que les résultats de ce référendum n'auront aucune valeur et réclament un dialogue entre Madrid et Barcelone. Reste à savoir si le leader espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, acceptera d'entamer des négociations avec le gouvernement catalan, comme l'ont sollicité l'opposition et la société en général.
Le reportage de Diane Cambon à Barcelone. Alors, rien ne dit encore que le scrutin de dimanche se tiendra, tant le pouvoir central multiplie les actions pour l'empêcher. La police a reçu l'ordre de prendre le contrôle des bureaux de vote. Une dizaine d'élus de l'exécutif régional catalan a été arrêté et le pouvoir central a pris le contrôle financier de la région, ce qui a incité d'ailleurs les autorités catalanes à demander l'intervention de Bruxelles. Ces événements sont d'ailleurs suivis de très près par l'Europe et par les Européens, en particulier par les autres mouvements indépendantistes. Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors, on reste en Espagne tout d'abord, plus au nord, à la frontière avec la France, où les Basques, eux aussi, sont tentés par l'indépendance.
Oui, depuis des décennies. Peut-on oublier les attentats de l'ETA qui ont fait 829 victimes entre 1969 et 2010, date à laquelle l'Organisation pour la Libération du Pays Basque a renoncé à la violence. Depuis, les nationalistes sont installés au pouvoir à Bilbao, mais ils ont mis en sourdine leur séparatisme. Il faut dire que la communauté autonome basque jouit d'une complète autonomie fiscale à l'égard de Madrid, bien plus large que celle des Catalans.
Alors, hors de l'Espagne, qui d'autre observe de très près ces événements de Catalogne ?
Bien sûr, les Écossais. Ces derniers sont décidés à organiser un nouveau référendum d'indépendance depuis la victoire du Brexit qu'ils avaient rejeté à 62%. Mais Nicola Sturgeon, premier ministre d'Écosse et leader du parti national écossais SNP, a dû tempérer son enthousiasme après la déconvenue de son parti aux élections générales de juin, élections qui ont vu le SNP perdre 21 des 56 sièges de députés à la Chambre des communes qu'il détenait depuis 2015. Du coup, elle n'envisage plus de consultations avant le printemps 2019, une fois conclues les négociations du Brexit. On se souvient par ailleurs qu'en septembre 2014, le dernier référendum sur l'indépendance, organisé, lui, avec l'aval de Londres, avait vu le non l'emporter à 55%. Donc, les perspectives d'indépendance de l'Écosse ne sont pas très élevées, surtout pour une population qui aura déjà vécu le traumatisme de la sortie de l'Union européenne.
Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions en Europe à ce scrutin catalan ?
Oui, curieusement, celle du leader nationaliste flamand Bart De Wever, président du NVA. Je dis curieusement car depuis qu'il soutient le gouvernement libéral de Charles Michel, De Wever avait mis de côté son objectif de donner à la Flandre son indépendance par rapport à la Belgique. En ressortant aujourd'hui cet étendard, le leader du NVA espère enrayer la remontée gênante pour son parti des nationalistes flamands du Vlaams Belang dans les sondages.
Alors qu'en est-il désormais des velléités d'indépendance en Italie du Nord, Daniel ?
Le rêve d'une Padanie indépendante semble s'être évanoui avec le changement de leadership à la Ligue du Nord. La sécession de l'Italie septentrionale, par rapport, dixit la Ligue, aux corrompus de Rome et aux flemmards du Mezzogiorno, était l'objectif d'Umberto Bossi, le fondateur de la Liga. Mais Bossi, diminué physiquement et englué dans des scandales de corruption, a dû laisser la place à Matteo Salvini, bien plus nationaliste que régionaliste. Désormais, la Ligue ne crie plus « débarrassez-nous des sudistes », mais « dehors les musulmans ». Pourtant, les velléités de séparatisme n'ont pas disparu au nord de l'Italie. Le ligueur Lucas Zaia, président de Vénétie, avait déjà organisé une consultation séparatiste en 2014. Il récidive le 20 octobre prochain de concert avec la région lombarde, dirigée par un autre cacique de la Ligue, Roberto Maroni. Mais cette consultation informelle dans ces deux riches régions, 30% du PIB italien, ne vise cette fois qu'à obtenir plus d'autonomie vis-à-vis de Rome, un peu sur le modèle du Trentin Haut-Adige, le Sud-Tirol italien.
Retour en France avec le combat des nationalistes corses qui se poursuit.
Les nationalistes de Femua Corsica et de Corsica Libera contrôlent désormais l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni étant pour sa part devenu président du Conseil exécutif. Mais l'indépendance du territoire n'est plus qu'un objectif lointain à atteindre très progressivement. En pratique, les nationalistes visent désormais une autonomie renforcée sur les plans économiques, judiciaires, culturels et touristiques. L'heure est à l'apaisement.
Alors, d'une façon générale, Daniel, est-ce que l'heure n'est pas à l'apaisement un peu partout en Europe ?
C'est vrai. Les attentats de ces dernières décennies n'ont plus cours. Plusieurs mouvements indépendantistes seront devenus totalement marginaux, comme en Bretagne, Alsace ou Bavière. Là où ils demeurent et rencontrent un large soutien de la population, l'objectif d'indépendance est lointain et n'est plus envisagé qu'au terme d'un lent processus de négociation passant par des autonomies renforcées. Malgré l'agitation actuelle, la Catalogne ne fait pas exception à cette tendance.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Wat heeft Sint Maarten voor mij meegebracht? Deze donkere novembernacht.
Le passage de l'ouragan Irma a fait couler beaucoup d'encre en France, avec une polémique sur la gestion de la catastrophe à Saint-Martin, cette île franco-néerlandaise des Antilles. Mais aux Pays-Bas aussi, la gestion des autorités a été parfois critiquée. Même si la partie néerlandaise a été moins touchée que le nord, les dégâts sont très nombreux et les habitants vivent depuis dans des conditions particulièrement difficiles. Alors en attendant, la solidarité s'organise dans le royaume. En témoigne ce reportage d'Antoine Mouteau aux Pays-Bas lors d'une réunion d'appel aux dons à Tilbourg dans le sud du pays.
Il y a du monde ce soir au Wereld Café de Tilbourg. Depuis le passage dévastateur d'Irma sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, des réunions pour collecter des fonds ont lieu un peu partout dans le pays. Joyce van der Horst est l'une des organisatrices de la soirée.
C'est incompréhensible que tout est cassé, que c'est tellement énorme le ravage. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. C'est dur.
Cyril Pfennig se prend la parole. Cet habitant de Tilbourg est originaire de Sint-Maarten. Il est arrivé aux Pays-Bas il y a une douzaine d'années pour ses études universitaires. Comme beaucoup de jeunes de l'île, il n'est pas reparti et a fini par faire sa vie ici. Mais toute sa famille est encore sur place. Le passage d'Irma a été pour lui un véritable cauchemar.
On a su environ trois jours avant qu'une tempête se dirigeait sur Sint-Maarten. On a commencé à être inquiet, car les bulletins météo ne laissaient rien présager de bon. C'était très perturbant, car malheureusement, on ne pouvait rien faire d'ici aux Pays-Bas. Pendant la tempête, nous, les proches de personnes sur place, nous nous sommes mutuellement rendus visite. Ici, à Tilburg, tous les gens originaires de Sint-Maarten qui habitent le quartier sont venus chez moi, par exemple. Nous nous faisions tous du souci pour l'île, mais surtout pour nos proches.
Beaucoup de soucis même, puisque pendant des jours, une bonne partie de la population de Sint-Maarten est restée coupée du reste du monde.
Rapidement, on a appris à quel point les ravages étaient importants. Les réseaux sociaux relayaient des informations et des photos, et en voyant les images, on se faisait de plus en plus de soucis. Nous écoutions aussi sur Internet la radio locale de Sint-Maarten, mais à partir d'un certain moment, il n'y avait plus aucun signal. L'antenne de diffusion avait été détruite, et là, le silence. On n'avait plus aucune connexion avec l'île. On ne savait plus du tout ce qui se passait.
Après le passage d'Irma, l'aéroport international Princesse Juliana de Philippsbourg est impraticable. Les moyens de télécommunication sont fortement paralysés. La Croix-Rouge annonce que plus de 90% des bâtiments de la partie néerlandaise de Saint-Martin sont endommagés. Mais très vite, la solidarité commence à s'organiser dans le reste des Antilles néerlandaises et aux Pays-Bas.
Après l'ouragan, il y a eu énormément d'initiatives. Ici, aux Pays-Bas, tout le monde voulait aider à sa manière, en récoltant des vêtements, du savon, du déodorant et beaucoup d'autres choses dont les gens ont besoin sur place. Il y a une grande solidarité, car les gens ici ont vraiment compati.
Avec des amis, Cyril Pfennig a lancé un appel aux dons sous le nom de Rebuild SXM, en français « Reconstruire Sint-Maarten ». Pour l'instant, ils ont récolté environ 10 000 euros. Le problème maintenant, c'est surtout de pouvoir acheminer l'aide vers l'île ravagée.
L'aide a mis beaucoup de temps à arriver, surtout au début. Ça dure en général environ 3 jours avant d'arriver, surtout qu'on ne pouvait plus atterrir à Sint-Maarten. L'aide des Pays-Bas arrive d'abord à Curaçao. Là-bas, l'aide est transférée sur des plus petits avions ou sur des bateaux qui, eux, peuvent mettre jusqu'à 3 jours de plus avant d'atteindre Sint-Maarten.
Sur plusieurs chaînes de télévision et de radio néerlandaises, une journée d'appel aux dons pour Sint-Maarten a même permis de récolter 13 millions d'euros pour la reconstruction. Irma a marqué les esprits aux Pays-Bas, même chez ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Sint-Maarten. C'est le cas de Nick, 57 ans.
Un ami a vécu et travaillé pendant un moment à Sint-Maarten. Il a beaucoup d'amis là-bas, des entrepreneurs. Et donc, après Irma, il a lancé une initiative pour récolter de l'argent et aider les entrepreneurs sur place. Hier, nous étions à un dîner de charité. Il y avait environ une centaine de donateurs.
Par pudeur, dit-il, Nick ne veut pas dévoiler combien il a donné, mais il affirme tout de même avoir eu la main généreuse. Sur le podium, Yisk Roslinga appelle lui aussi au don, comme Cyril, il a grandi à Sint-Maarten et tous ses proches s'y trouvent encore. Aujourd'hui, son souhait le plus cher est de revoir son île comme ce qu'elle était avant Irma.
Ce que nous espérons vraiment, c'est que les gens à Sint-Maarten puissent retrouver leur vie d'avant. Ici, aux Pays-Bas, les jeunes peuvent aller à l'école, faire du sport, avoir une vie normale. On aimerait que ce soit de nouveau le cas pour la jeunesse de Sint-Maarten. Ce sont parfois des toutes petites choses, mais ce qu'il faut, c'est que les gens puissent continuer à être heureux et aimer la vie, et pas rester prisonniers de cette catastrophe.
Dans le public, Alberto, 27 ans, écoute attentivement. Il est lui aussi originaire de Sint-Maarten. Sa famille est toujours sur place.
Pour l'instant, ma famille va bien. Ils ont eu peu de dégâts, mais tout autour, tout est dévasté. Il n'y a plus de magasins, peu à manger, plus d'eau, plus d'électricité, donc c'est très dur. Et là, j'essaie de leur trouver de la nourriture et des produits cosmétiques car ils n'ont plus de travail. Le tourisme est complètement à plat.
Au cours de la soirée, Alberto n'a pas caché son exaspération. Il se pose certaines questions sur la gestion néerlandaise de la crise. Les avis sont très partagés, mais ici, beaucoup ont décidé d'éviter de parler politique. Le sujet est sensible. Dans une interview à un quotidien néerlandais, le premier ministre de Sint-Maarten, William Marlin, a notamment accusé l'armée néerlandaise d'avoir laissé faire les nombreux pillages après le passage d'Irma. Accusation démentie par le gouvernement de La Haye. Beaucoup ici aux Pays-Bas renvoient le premier ministre de Sint-Maarten à sa propre gestion de la catastrophe. Certains néerlandais rappellent désormais aux critiques de Sint-Maarten que leur partie de l'île a accédé à un statut de semi-indépendance en 2010.
L'écrivain russe Nicolas Gogol reprend vie à la télévision. Alors pas sous forme d'un biopic, mais en tant qu'héros imaginaire d'une série fantastique. Dans Gogol, le commencement, l'écrivain du 19e siècle incarne un détective mystique chargé d'enquêter sur une série de meurtres dans une province ukrainienne bien inquiétante. Cette adaptation laisse une partie des spectateurs perplexes, Étienne Bouche.
Il se passe des choses étranges près du hameau de Dikanka. Des jeunes femmes disparaissent dans des circonstances sordides. Un célèbre enquêteur est missionné par le tsar afin de mettre fin à ces meurtres en série. L'assistant qui l'accompagne, c'est Nicolas Gogol. On le reconnaît tout de suite à sa célèbre coupe au carré. Sa contribution à l'enquête est précieuse, puisque l'homme a des visions. Des visions qui provoquent chez lui des évanouissements. Selon la bande-annonce, la présence dans la forêt d'un mystérieux cavalier sans visage, mais avec des cornes dans le dos, pourrait expliquer bien des choses. Mais quel rapport avec l'écrivain Gogol ? Au début de sa carrière, l'écrivain publie Les Soirées du Hameau, un recueil de nouvelles sur l'Ukraine qui, à l'époque, appartient à l'Empire russe. Les histoires mêlent folklore et fantastique. En faisant de Gogol un détective mystique luttant contre des forces surnaturelles, la série imagine ce qui aurait pu lui inspirer ces nouvelles fantastiques. L'atmosphère blafarde et brumeuse évoque le cinéma de l'américain Tim Burton. Beaucoup soulignent la ressemblance flagrante avec le film Sleepy Hollow. Des internautes s'indignent. Aucune imagination. L'un d'eux estime que Gogol doit se retourner dans sa tombe. Le grand écrivain transformé en héros gothique confronté à des sorcières livides, certains s'en amusent, d'autres trouvent ça grotesque. L'agence de presse Interfax, elle, reproche au personnage de parler comme des vendeurs de magasins de téléphone. La production assume, elle a voulu moderniser l'image de Gogol. La série a donc son lot d'effets spéciaux et de scènes d'action. La bande-annonce laisse entrevoir aussi une scène torride entre Gogol et une séduisante rousse, Gogol qui, pourtant, n'était pas franchement porté sur la chose.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver tout de suite sur RFI.fr à la page émission.